Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors désolée pour ce petit retard, mais je crois que j'ai été sous stress. Et je voudrais commencer par remercier infiniment Ciliane et toute l'équipe de d'avoir eu l'excellente idée d'organiser un tel colloque. Moi, j'avoue que ça me fait beaucoup de bien de voir que on peut effectivement aborder tous ces sujets aujourd'hui dans un espace académique. Et permettre justement des comparaisons internationales qui tiennent compte notamment des spécificités liées à la colonisation française, sur laquelle je reviendrai justement. Et alors, je me suis demandé pourquoi j'avais été invitée, et je pense que la seule raison, c'est que je commence à prendre de l'âge et que on m'a demandé, eu égard à mon âge, d'avoir une vision peut-être un peu rétrospective. Alors, j'ai hésité justement dans ce que j'allais vous présenter. J'ai changé de titre plusieurs fois et en fait, je me suis dit que j'avais à la fois envie de vous parler de ce qui se passe en Guadeloupe, à la fois envie d'interroger avec vous la question des féminismes noirs, mais aussi de rendre hommage aux femmes et notamment aux chercheuses qui ont contribué à faire émerger les questions des femmes depuis les Antilles et particulièrement de la Guadeloupe. Et ceci pour une raison aussi qui tient à mon parcours. Quand la question de l'intersectionnalité a émergé, comme l'a dit Ciliane hier, dans les années 2000, j'ai eu l'impression, moi, de quelque chose d'extrêmement familier. J'ai eu l'impression de quelque chose qui n'était pas nouveau. Et en fait, je me suis dit, mais toutes les chercheuses guadeloupéennes ou antillaises que j'ai lues parlaient déjà de ça depuis longtemps, depuis les années 70-80. Alors du coup, je vais aussi essayer de leur rendre hommage. Et donc, je vous propose finalement un panorama socio-historique de la question des engagements des femmes de Guadeloupe. Et je le fais à partir d'un point de vue situé, puisque je viens d'une formation en anthropologie culturelle, puisque j'avais fait ma thèse avec Maurice Godelier. Je suis ensuite venue à m'interroger sur les femmes grâce à l'enquête ANVEF sur les violences faites aux femmes. Et elle n'est pas là, mais je voudrais quand même remercier Myriam Cotias de m'avoir invitée dans cette enquête et de m'avoir permis de devenir féministe. Et j'ai ensuite travaillé sur des questions d'anthropologie et sociologie politique de la santé et du postcolonialisme. Et une des raisons de mon stress, c'est que je me bats dans mon université pour que les questions de race, de discrimination et de postcolonialisme puissent exister. Et j'ai perdu le combat cette semaine. Donc je suis assez bouleversée de voir qu'on a pu me répondre que la question de la race n'a fait pas sa place dans une licence de sociologie parce que la licence traite de questions générales. Et que la race n'est pas un point de vue général, et que le postcolonialisme disparaîtra du master. Alors, les questions que je vais me poser avec vous aujourd'hui concernant les féminismes noirs en contexte post-impérial français sont les suivantes. À partir de la Guadeloupe, je vais me demander si les femmes guadeloupéennes engagées étaient ou sont des féministes. Est-ce qu'elles se revendiquent féministes? Mais aussi, tout simplement, est-ce qu'elles se disent noires? Est-ce qu'elles se revendiquent noires? Alors, on pourrait dire que toutes les femmes noires de... Est-ce que toutes les femmes noires de Guadeloupe sont noires de la même façon? Vous savez, le « all animals are equal, but some are more equal than others ». Certes, toutes les femmes sont noires, mais certaines sont plus noires ou moins noires que d'autres aux Antilles, et ça va être peut-être aussi ça la problématique. Et je vais m'interroger sur les effets du contexte colonial et postcolonial français, qui avait la particularité d'être à une situation assimilationniste. Et je pense que ça change un certain nombre de choses, y compris dans la perpétuation d'une domination dite néocoloniale, à travers notamment des politiques publiques dont les femmes héritent. Et donc, je voudrais m'interroger. Alors, oui, les particularités de cette colonisation, c'est aussi qu'il n'y a pas eu de décolonisation, mais des processus de régionalisation, sur lesquels je reviendrai. Et je voudrais donc m'interroger sur les liens entre l'émancipation féminine, comment elle a été questionnée. Et justement, les questions d'identité culturelle et nationaliste et les enjeux d'évolution politique du pays Guadeloupe. Et ce qui m'a intéressée là, en préparant cette communication, c'est de voir qu'en fait, la question de la place des femmes a toujours, tout au long du XXe siècle et début XXIe siècle, été tributaire de la question de l'évolution du statut politique de l'île et de la place qu'on accorde à la culture guadeloupéenne. Eh bien. C'est éteint. Il n'y a plus de batterie dans l'ordi. Je sais pas, mais j'ai plus rien. Alors, de mémoire. Je vais essayer de commencer de mémoire. Alors, dans une première partie, je voulais donc m'interroger sur la question justement de l'héritage de la colonisation esclavagiste et coloniale, et insister sur le fait que l'assimilation, le principe d'assimilation dans les colonies françaises et justement dans le processus de sortie de l'esclavage a impliqué de... Enfin, à contribuer à créer une société extrêmement hiérarchisée en fonction du principe de couleur et en fonction donc de catégories socio-raciales qui ont créé une société pyramidale avec à sa base une population qui est majoritairement noire. Et ça va être ça aussi la question, une des questions à se poser, c'est qu'on n'est pas dans une situation où les noirs sont minoritaires, mais ils sont majoritaires. En son sommet, une minorité blanche, et entre les deux, différentes catégories de couleurs liées au métissage, aux stratégies de blanchiment, à l'existence, à l'apparition au XIXe siècle d'une catégorie de libre de couleur, et donc des inégalités socio-raciales qui se sont incarnées dans un principe pigmentocratique qui continue aujourd'hui de diviser la population, et on le voit notamment dans la façon dont cette pigmentocratie est réactivée dans le rapport aux étrangers et notamment aux femmes haïtiennes ou caribéennes. Alors là, je vais quand même avoir besoin de mon PowerPoint parce que... Alors, la colonisation assimilationniste implique aussi que... et le fait qu'il n'y a pas eu de décolonisation implique aussi que... C'est OK? Ah. Alors, il faut que je reste là, du coup? Si ça... OK. Non, il n'y a pas... Juste que je vais me tordre la tête. OK. Alors, oui. Le fait qu'il n'y ait pas eu de décolonisation, mais un principe d'assimilation porté par Césaire en 1946 jusqu'à la régionalisation en 1982... implique aussi que les politiques publiques sont majoritairement décidées à Paris, dans le centre, et vont s'appliquer donc dans des périphéries, même si ces périphéries ont des représentants locaux. Mais il apparaît quand même que tout au long du XXe siècle, l'évolution de la Guadeloupe se fait en écho à des décisions qui sont prises à Paris, rarement l'inverse, et ça maintient ce que d'aucuns estiment être une dépendance néocoloniale à la France, qui contribue aussi au dénigrement du pays Guadeloupe et à sa difficulté à s'affirmer et à s'autodéterminer. Alors, dans le contexte guadeloupéen, on a aussi une tradition de résistance de longue date, mise en évidence, mise en exergue par le combat nationaliste à partir des années 70-80, autour de certains personnages comme Delgrès, dont la figure apparaît dès le début du XXe siècle, combattant de 1802 contre le rétablissement de l'esclavage, comme Solitude, dont je vous parlerai. Et donc des résistances aussi tout au long de l'histoire de la part des femmes, résistance à l'esclavage, résistance à l'assimilation, résistance à des formes de néocolonisation, sur lesquelles donc je reviendrai. Donc avec une image de femme qui s'est construite dans un stéréotype de la résistance, de la femme d'Ubout, on a parlé hier de la femme potomitan, je reviendrai dessus, et donc de femmes qui sont censées être fortes, qui sont censées être résistantes et qui se définissent dans cette verticalité particulière. Alors un élément important qu'on oublie souvent mais qui me semble essentiel, c'est que je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un processus de déchristianisation aux Antilles et que ni de désenchantement du monde, et qu'on est encore beaucoup dans des conceptions, dans l'emprise de formes religieuses et de diverses confessions sectaires aujourd'hui et du magico-religieux. Alors, dans ce que l'on peut questionner, c'est justement le fait que le discours sur les femmes est souvent confondu avec le discours sur la famille, sur la nation et sur la culture. On a beaucoup de mal dans les débats, dans les travaux, dans les orientations politiques à penser les femmes en tant que sujet politique et à les penser autrement que dans leur rôle lié à l'équilibre familial, à la sauvegarde de la nation et à la protection de la culture. Et on peut voir que dans les différents moments de l'histoire contemporaine de la Guadeloupe, en fait, se pose la question de comment être une femme et souvent d'ailleurs de comment être une mère. Dans la logique assimilationniste, je résume. Alors oui, je voulais vous dire que tout ce que je vous présente est d'une très grande complexité et que j'ai passé mes jours et mes nuits à essayer de savoir comment vous les présenter de façon simple. J'espère ne pas être simpliste, mais je dois faire quelques réductions et si vous voulez, on reviendra dans les détails. Dans la période assimilationniste, je crois qu'une des questions principales qui se posait pour les femmes, ou qu'on leur posait, c'était comment être une femme ou une mère française et respectable. Même si elles ont résisté à cette injonction, je pense que c'était vraiment le modèle de la respectabilité, de la légitimité, de la citoyenneté française qui s'imposait et qui va être remise en question par le mouvement nationaliste, qui va plutôt se poser la question de savoir comment les femmes peuvent résister à l'aliénation, aliénation politique, aliénation psychique, aliénation culturelle, et j'y reviendrai. Et puis, au XXIe siècle, les questions politiques qui sont en jeu, c'est celle de l'émancipation, de l'égalité réelle, de l'autonomie et de la différenciation culturelle. Je vous donnerai le détail. Et dans cette période qui concerne les années 2000-2010, il est question maintenant de promouvoir des particularités culturelles des femmes guadeloupéennes et de leur demander d'être garantes de ces particularités culturelles. Alors, pour vous parler, donner un exemple du façonnage assimilationniste du rôle des femmes, j'aime beaucoup citer un extrait du discours du gouverneur Saurin. J'ai pas regardé l'heure, alors du gouverneur Saurin qui, en 1942, pour la fête des mères, enjoint les femmes à se comporter comme des mères françaises, en leur disant que être une mère française ne consiste pas à donner la vie au gré des hasards à beaucoup d'enfants qui n'ont pas le même père. Être une mère française ne consiste pas à laisser pousser ses enfants au hasard sans hygiène, etc. Être une mère française ne consiste pas à donner à ses enfants un seul amour, celui de l'argent, un seul moyen, la paresse, une seule distraction, l'immoralité. Donc vous voyez comment on oppose à la figure de la mère française, celle de la mère guadeloupéenne, descendante d'esclaves, la mauvaise mère, hein, c'est toujours l'image de la mauvaise mère, qui sera sauvée par la dignité, la respectabilité et la légitimité française. Car aujourd'hui, plus que jamais, être une mère française, c'est d'abord et avant toute chose, se constituer un foyer légal et chrétien, c'est d'avoir un mari qui soit le père des enfants que l'on met au monde, c'est être pour ce père une compagne agréable, dévouée, aimante et loyale, savoir le détourner du cabaret, du pit, où l'homme se ruine la santé et le porte-monnaie, et le faire aimer son foyer. Donc vous voyez comment on est vraiment dans à la fois la vision de la mauvaise mère, mais aussi du mauvais père, hein, qui passe son temps à dépenser son argent dans des futilités, et où c'est le modèle assimilationniste qui est censé l'emporter. Alors, je renvoie aux travaux de Myriam Cotillas, que je ne peux pas développer là, pour montrer comment les femmes ont résisté aussi à ces modèles, des résistances dans le fait justement de dire qu'elles ne voulaient pas forcément se marier, ne pas forcément avoir de mari, et ne pas forcément prendre la charge de tout sur leurs épaules. Mais là, on voit comment c'est à la fois l'équilibre de la famille, l'équilibre de la société, l'équilibre de la nation. Je vous rappelle qu'en 1942, c'est l'État français qui dirige, hein, et donc l'État, qui collabore, et l'État vichysois. Et donc le modèle assimilationniste est à son comble. Alors, des modèles justement de femmes correspondent plutôt à la période suivante, la période de revendication nationaliste, c'est évidemment la figure de Solitude, la mulâtresse Solitude, qui émerge grâce au roman d'André Schwarzbart en 1972, je crois. Alors, Solitude, c'est une résistante de 1802 au rétablissement de l'esclavage et donc qui se bat aux côtés d'Elgrès et Ignace contre les troupes napoléoniennes de Richepanse. On en sait très peu, c'est un mythe. Elle est portée en héroïne parce qu'elle était enceinte et vous voyez que dans sa posture de femme Matador, guadeloupéenne, elle incarne les qualités de femme d'Ubout et de femme vaillante et forte, qui ne se laisse pas compter d'histoire. Et en même temps, sa maternité implique qu'elle est vraiment représentée comme une des mères fondatrices d'une société résistante et libérée. Et l'histoire qui nous est narrée par André Schwarzbart et par l'historien Lacour, dans les quelques notes qu'on a sur Solitude, c'est que, étant justement enceinte, elle n'a pas été arrêtée, elle n'a pas été exécutée quand elle a été arrêtée, mais qu'elle a été suppliciée. Une fois la délivrance, c'est-à-dire après son accouchement. Alors, je déconstruis les mythes. Hein, mon deuxième métier, c'est de déconstruire les mythes. Et les dernières recherches des historiens trouvent trace d'une Solitude à Marie-Galante en 1848. Donc, il n'est pas dit que Solitude soit morte en 1802. Mais, en tout cas, elle fait figure, justement, de la résistance héroïque mythique au combat pour la liberté. À côté d'elle, j'ai mis Mansoso, qui est morte en 2017 et qui est aussi une figure emblématique de l'ancrage culturel et surtout de la résistance aux hommes. Donc des figures de femmes fortes qui vont non seulement résister pour la liberté de la nation, mais aussi, enfin de la nation Guadeloupe, du pays Guadeloupe, mais aussi pour la liberté des femmes. Alors, quelques mots, enfin, une chose importante, c'est de revenir sur la question du potomitan comme archétype justement de la solidité familiale, sociale et politique. Alors, traditionnellement, le potomitan, c'est l'image de la mère ou de la grand-mère qui tient. Alors, je crois que ce qui définit le potomitan, c'est le fait de tenir. Il faut quimber, ti ma fille, il faut quimber, parce que de toute façon, la vie est dure et quoi qu'il arrive, il faut tenir. Donc, c'est cette verticalité qui définit le potomitan, qui doit s'occuper de son foyer, de ses enfants, de l'éducation et qui doit transmettre des valeurs importantes de dignité, de respectabilité. Et qui affiche une tenue à la fois dans sa tenue vestimentaire, dans son langage, dans sa façon de se comporter, et qui est respectable, et qui doit normalement faire preuve de fidélité envers les hommes, sauf quand elle est esselée et qu'elle peut avoir plusieurs partenaires successifs. Et donc c'est quelqu'un qui est censé se tenir aussi face à quoi ? Eh bien face à l'absence des hommes, face à l'adversité des hommes, face au pluripartenariat des hommes. Et donc ce potomitan se définit aussi par défaut par rapport à l'inconstance masculine. Alors c'est vraiment une image à la fois centrale et paradoxale, comme l'image de cette sculpture au cœur du Memorial Act, donc le centre caribéen d'expression sur la traite et l'esclavage, sculpture qui représente justement le potomitan. Paradoxale parce que elle repose en même temps sur un idéal sacrificiel, le fait que les femmes assument toutes les charges domestiques, éducatives, mais face abstraction de leur devenir de femme, et que cet idéal sacrificiel repose sur la culturalisation et la naturalisation des rapports de genre, c'est-à-dire c'est comme ça. Pourquoi les femmes tiennent ? Pourquoi elles doivent tenir ? Parce que c'est comme ça, c'est culturel, c'est inscrit dans notre histoire, c'est formaté par des déterminismes historiques, ou c'est naturel, elles seraient naturellement plus capables de faire face, et en même temps donc de résister par des formes habiles d'opposition, d'insoumission verbale, ou parfois carrément frontale. Et du coup, ça interroge aussi la question de la sororité ou de la rivalité avec les femmes, parce que quand on résiste et quand on accepte en même temps, quand on se résigne ou quand on est dans une insoumission habile, est-ce qu'on est dans une dénonciation de ce que font les hommes au niveau collectif ? Et est-ce qu'on crée une sororité ? Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans des formes de rivalité face au pluripartenariat des hommes et des rivalités entre femmes, des formes de compétition qui vont peut-être d'ailleurs être un obstacle à la formation d'un véritable féminisme ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la façon dont le potomitan est présenté dans la société est un indicateur aussi de l'évolution de la place des femmes, mais aussi de la résistance éventuelle au féminisme, et je vais le développer. Alors, quelques images, vous voyez, j'y reviendrai éventuellement dans le débat. En tout cas, vous voyez le potomitan dans des articles de journaux, la femme entourée d'enfants qui, dans sa tenue créole, qui représente donc à la fois cette culture et cette dignité. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais vous parler des femmes donc, qui ont contribué à l'émancipation féminine et féministe de la fin du XXe siècle. Alors, je parle de la fin du XXe siècle parce que je ne suis pas historienne et je connais peu ce qui s'est passé avant les années 70, et je pense qu'hier, il y a eu quelques présentations sur le sujet. Mais je vous parle de ces femmes parce que c'est des femmes que j'ai découvertes en commençant et en développant mes travaux, et je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment connues dans l'espace hexagonal alors qu'elles ont joué un rôle majeur dans l'histoire des femmes en Guadeloupe. Alors, la première d'entre elles, Gertie Archimède, née au début du siècle et morte en 1980, qui a été la première femme noire, la première femme noire avocate en Guadeloupe, et qui s'est battue pour faire valoir la citoyenneté des femmes et faire en sorte qu'elles deviennent enfin des citoyennes majeures, puisque vous savez que avec la fin de l'esclavage, elles n'étaient considérées que comme des citoyennes mineures, et donc pour permettre aux femmes d'accéder à leurs droits, de s'émanciper par rapport à leur père, à leur mari, à leurs frères, et notamment elle, ça a été son cas, puisque son père, qui était d'une famille plutôt, on va dire, de classe moyenne, si on utilisait les catégories actuelles, ne voulait pas qu'elle travaille, parce qu'une femme respectable, de bonnes conditions, devait être entretenue par son mari. Et donc, elle a préféré faire des études et s'engager pour pouvoir devenir avocate et défendre la cause des femmes. Alors, elle est représentée donc dans sa tenue de magistrate, enfin d'avocate. Et, c'est un personnage singulier parce qu'elle rencontre Angela Davis en 1959. 69. Je suis très fatiguée. Hein. Je crois que j'ai dormi 3 heures, donc je vais en faire des lapsus. Donc, parce qu'Angela Davis, de retour de Cuba, passe par la Guadeloupe et elle a dans ses valises des ouvrages de propagande communiste. Et elle fait l'objet déjà d'un mandat des Américains et elle est arrêtée. Alors elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas mise en prison, mais elle est détenue en Guadeloupe. On lui confisque son passeport pour cause de désordre, enfin de risque à l'ordre public. Et donc, comme elle est communiste, elle s'adresse aux communistes de Guadeloupe et elle est adressée à Gertie Archimède, qui va prendre sa défense et réussir à la faire partir. Alors, j'ai eu le bonheur de rencontrer Angela Davis il y a 3 mois avec Ciliane, et on a prévu un colloque en Guadeloupe justement pour parler de Gertie Archimède, dont on s'était l'année dernière, et que Angela Davis vienne raconter cette rencontre. Et Angela Davis m'a dit: je veux savoir qui était Gertie Archimède, parce qu'elles se sont très peu vues, et pour elle c'était une femme essentielle. Alors, autre femme essentielle de l'Union des femmes, donc du Parti communiste de la Guadeloupe, qui s'affirme en 1958, c'est Georges Tarrère. Georges Tarrère, et c'est la première femme sage-femme, et elle est toujours vivante. Elle aura, vous voyez, elle est née en 21, donc elle a 99 ans cette année. Elle est toujours vaillante, mos aux femmes, et elle a milité et elle s'est battue dans son métier pour permettre d'améliorer la maternité, le rapport au corps, à la sexualité des femmes dans un contexte, quand elle a commencé, de très grande misère sociale, de pauvreté, de misère sexuelle. Ce qu'elle raconte, il y a un film qui sort là, l'avant-première est ce soir en Guadeloupe, donc je n'y serai pas, mais sur la vie de Georges Tarrère, qui a permis à des milliers de femmes justement de se réapproprier leur corps. Et je trouve que, alors elle était membre de l'Union des femmes et de Guadeloupe, et donc de ce mouvement qui visait justement à émanciper les femmes. Et elle inscrivait toujours dans son rapport au corps la question de la dignité, mais véritablement en même temps dans la réappropriation. Alors, toujours dans l'Union des femmes, Mona Cados, qui est toujours vivante et qui a été la secrétaire du Parti communiste, et c'est intéressant de voir le lien entre féminisme et communisme, et qui, elle raconte comment le combat du communisme et des femmes en Guadeloupe, c'était de lutter contre toutes les inégalités pour changer la société. Et de lutter donc pour les femmes guadeloupéennes et toutes les femmes guadeloupéennes, qu'elles soient noires, qu'elles soient des femmes de couleur, que ce soit des femmes blanches, même si évidemment les femmes blanches ne subissaient pas les mêmes inégalités. Et donc, ce n'est pas la question de la race qui est posée dans le manifeste des femmes, enfin, les textes fondateurs de l'Union des femmes de Guadeloupe, mais la question du droit, la question de l'accès aux études, la question du développement social et culturel, et surtout dans une Guadeloupe qui se prend en main et qui assure son autonomie. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un parallèle entre la question de la construction de l'autonomisation des femmes et la construction de l'autonomie de la Guadeloupe. Et donc, le principe pour Mona Cadot, c'était d'agir avec dignité, solidarité et respectabilité. Et elle se plaint aujourd'hui que les femmes remettent en question le pot-au-mitant, comme si le pot-au-mitant, ce n'était qu'une bonne à tout faire, vous voyez, elle le dit, alors que pour elle, le pot-au-mitant, c'était justement cette dignité et cette confiance que les femmes ont perdue aujourd'hui. Alors, dans les influences remarquables, c'est évidemment le lien avec les autres partis communistes, puisque ces femmes voyagent, elles vont en URSS au congrès des partis communistes, elles vont en Afrique, elles vont en Europe, elles vont dans la Caraïbe, et donc elles sont au fait des discours sur la question communiste. Alors, Mona me donnait les papiers fondateurs de justement l'Union des femmes, et vous voyez que ce qui est important, c'est qu'il est précisé, je l'ai souligné en rouge, qu'un changement dans le statut juridique vers une autonomie est la condition primordiale pour permettre à la femme guadeloupéenne de remplir son rôle de mère et de travailleuse. Donc on n'est pas là dans l'idée d'une émancipation complète par rapport à la famille, mais au contraire d'une inscription dans la vie familiale. Insister sur le fait que partout l'émancipation des femmes est liée à la libération de leur pays. Et que donc aujourd'hui, il faut construire le rôle de la Guadeloupéenne dans la famille, la société et la lutte pour l'autonomie. Et que l'intégration de la femme dans la vie économique, sociale, politique et culturelle d'une Guadeloupe autonome est donc l'objectif pour changer la vie en Guadeloupe. Vous voyez le lien entre autonomisation politique, économique, culturelle et autonomisation des femmes. Alors, venons-en maintenant aux chercheuses. Alors, je vais vous parler essentiellement des sociologues et psychologues. Je pense que je les ai choisies parce que c'est celles qui m'ont influencée, mais aussi parce que c'est quasiment les seules, à part il y avait quelques historiennes comme Josette Fallop, par exemple, qui ont conduit à penser la question féminine en Guadeloupe dans une posture qui était soit nationaliste, soit créoliste, soit guadeloupéaniste, en tout cas dans un engagement politique. Dany Bebel-Gisler, sociologue décédée en 2003, qui a beaucoup travaillé sur... Elle était sociolinguiste, elle a beaucoup travaillé sur le créole comme langue jugulée justement par la colonisation, témoignait à la fois de la richesse de la culture locale, mais qui était l'objet d'une censure, d'un dénigrement, et qui ne pouvait pas trouver sa place dans l'espace public. Elle a travaillé, par exemple, sur la façon dont l'école se faisait en français et ne permettait pas aux enfants créolophones de trouver leur place dans la société et d'avoir accès aux études parce qu'ils étaient empêchés par leur moindre appropriation du français. Et donc, dans ses travaux, elle insiste sur la nécessité d'une désaliénation culturelle pour lutter contre la négrophobie et le dénigrement linguistique et pour la reconnaissance de la culture guadeloupéenne. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment très important, c'est-à-dire tout ce travail qui va être fait qui est beaucoup plus fort à partir des années 70 et 80, de réappropriation culturelle, de revalorisation culturelle, et pour permettre à la population de se pacifier avec ses propres origines guadeloupéennes, esclavagistes ou africaines. Alors, dans son ouvrage sur Léonora, elle retrace justement le parcours d'une femme noire qui vit en milieu rural et qui est victime de toutes sortes de domination, d'inégalité, et qui va pouvoir s'en sortir par l'éducation. Et donc là, il y a vraiment l'idée que le féminisme, s'il existe pour ces femmes, doit passer par l'accès à l'éducation. Julie Lirus-Galap, j'ai eu un doute sur le fait qu'elle était guadeloupéenne. Elle est martiniquaise, c'est ça, mais elle a quand même pas mal parlé, elle a quand même pas mal travaillé sur les femmes guadeloupéennes, c'est pour ça que je l'ai mise. Et elle a travaillé notamment à partir de l'expérience des femmes de Guadeloupe et de Martinique dans la migration post-Bimidome. Et elle a parlé notamment des difficultés pour les femmes à recréer du lien familial dans la migration et du phénomène qu'elle appelle l'enfant paquet. C'est-à-dire que les femmes qui, en France, se retrouvaient avec un enfant et ne pouvaient plus disposer du soutien familial, de la grand-mère, de l'environnement familial, renvoyaient leur enfant au pays, et donc notamment en Guadeloupe. Et comment on a vu en Guadeloupe arriver des petits, des bambins, éduqués par du coup leur grand-mère, coupés de leur mère qui était dans la migration. Et c'est pour ça que je l'ai citée, parce que je trouve qu'elle a travaillé à la fois sur les problématiques d'adaptation des Guadeloupéennes en France, sur l'expérience du racisme. Et elle a fondé avec son mari Jean Galap le CEDAGRE, le Centre d'études et d'accueil des Antillais Guyanais Réunionnais, qui avait produit une revue qui s'appelait Marron. Et je pense que s'il y a des historiens dans la salle, ce serait très intéressant de faire... d'aller fouiller dans les archives, s'il en reste, du CEDAGRE, parce que là, il y a une mine. Alors, du côté de la lutte pour la désaliénation psychique des femmes, ce sont des psychologues et des psychanalystes qui vont se démarquer, notamment Dany Ducosson et Or Jean Goudou. Alors, je n'ai pas trouvé de photo, mais je vous ai mis une photo de la revue qu'elles ont cofondée avec notamment Fritz Gracchus, Jacques André, Daniel Maragnès, qui sont... Alors, Fritz Gracchus et Jacques André, qui étaient... Enfin, Jacques André est toujours vivant, vous le connaissez peut-être. Il est professeur de psychologie, psychopathologie, ici, à Paris 7, Jussieu, c'est ça ? Paris 7, OK. Et il a travaillé en Guadeloupe pendant quelques années. Et donc, ils ont fondé cette revue du centre... Carré, c'était le centre d'analyse et de recherche... Bon, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. L'objectif, c'était de montrer comment une des problématiques essentielles de la société, c'était la question des problématiques familiales. Et donc, d'aborder la question de la monoparentalité, du pluripartenariat des hommes, de la figure centrale de la mère, dans une lecture psychanalytique et psychologique, qui a pu montrer comment il persistait des formes d'aliénation liées à l'héritage esclavagiste. Et que donc l'objectif, c'était de réussir à déconstruire cette aliénation pour trouver des formes d'apaisement et de convergence entre au sein des relations familiales, mais aussi entre la question, les dimensions de l'identité culturelle, de l'identité politique, de l'identité nationale, et de voir comment réussir à proposer des convergences pour justement se désaliéner. Alors, le point majeur, je résume beaucoup, hein, mais le point majeur de ces travaux, c'est l'analyse du lien dit phallique focal entre la mère et son fils dans les sociétés antillaises, et notamment en Guadeloupe, et donc de cette amarre particulière que les fils ne réussissent pas à défaire dans un attachement premier et durable à la mère, faute de père, mais parfois même quand le père est là, parce que la mère va vouloir maintenir ce lien particulier au fils, où le fils est vu comme un coq, comme un substitut phallique, nous diront-ils. Et donc, l'analyse de ce lien-là est abondée par des références à l'esclavage et aux suites de l'esclavage dans l'éventuelle déstructuration du lien familial et de la place du père. Alors, du côté des femmes, les travaux des psychologues et des psychanalystes avaient pour objectif de les libérer justement de ces déterminismes historiques et du contrôle social et culturel dont elles faisaient l'objet, et mais aussi d'aider les hommes à advenir dans leur masculinité, dans leur paternité, pour justement éventuellement aussi se libérer de cette amarre maternelle, en tout cas de trouver des moyens d'advenir en tant qu'homme et pas seulement en tant que fils. Alors, autre personne qui a travaillé cette fois-ci sur le magico-religieux, d'abord dans la migration, puis en Guadeloupe, c'est Hélène Migerel, qui est psychologue et psychanalyste et qui est toujours active aujourd'hui dans le débat public. Alors, un des auteurs importantes aussi, vraiment, et essentiel, c'est France Alibar et Pierrette Lemboyboy. Est-ce que parmi ceux qui travaillent sur les Antilles, il y en a qui les connaissent ? Aïe, aïe, aïe. Alors, je suis contente de réhabiliter France Alibar et Pierrette Lemboyboy. Le travail féministe incontournable pour les Antilles et la Guadeloupe, c'est ces couteaux sels. Ces couteaux sels qui savent ça qu'il n'y a dans Tcha à Giromont. C'est-à-dire, il n'y a que le couteau qui sait ce qu'il y a au cœur du Giromont. C'est-à-dire, il faut aller percer, il faut aller fouiller dans le cœur des choses pour savoir vraiment ce qui s'y passe. Donc, c'est l'idée que, même si en surface, les femmes ont l'air d'être des potomitantes, douboutes, vaillantes, solides, au fond d'elles et dans leur cœur, elles ont enquêté auprès de plusieurs dizaines, centaines de femmes, je ne sais plus exactement, elles ont trouvé une réalité complètement différente. Alors, elles sont influencées par le féminisme français, canadien, américain, notamment les travaux de Gerda Lerner, historienne des femmes aux États-Unis. Et elles montrent comment, en fait, les femmes de Guadeloupe sont victimes d'un cumul de domination raciale, sexuelle et sociale. Et donc, les travaux datent de 1980, enfin, sont publiés en 80 et 82, donc elles ont travaillé dans les années 70. Donc, vous voyez qu'on est bien avant le dévoilement du black feminism dans les années 2000 ici, même si les textes du black feminism sont aussi des années 70. Elles insistent sur la négrophobie et elles reprennent le travail de Fanon sur l'intériorisation de l'infériorisation. Elle montre évidemment la grande part de familles monoparentales et en même temps, elles insistent sur l'expérience de la violence vécue par les femmes depuis leur enfance, que ce soit les coups de ceinture, les coups de bâton dans l'éducation, les violences verbales, l'inceste qui est pratiqué plus souvent que rarement, comme on dit en Guadeloupe. Et elles insistent sur la misère sociale, sexuelle, éducative, conjugale des femmes. Elles décrivent des situations de sexualité, de rapport au corps, où vraiment les femmes ont l'air d'être étrangères à elles-mêmes. Et donc elles insistent sur la nécessité du coup de sortir de cette misère dans à la fois un travail éducatif et un travail d'émancipation. Alors pour vous dire, parce que je crois qu'hier il a été question de Gerty Dambury, Gerty s'est inspirée du travail de France Alibar et Pierrette Lumboy-Boy, notamment parce que je crois que c'est France Alibar, je vais dire une bêtise, a été assassinée par son fils. Donc je crois que c'est France Alibar, c'est ça ? Et donc, ça a posé la question de la violence, un autre type de violence, celle des fils aussi, qui est une problématique qu'on va retrouver au XXIe siècle, notamment par rapport à la problématique de la drogue, parce que je crois que son fils était usager de drogue. Alors, quels apports et quels projets nous permettent d'obtenir tous ces travaux par rapport à la question du féminisme et des femmes guadeloupéennes ? Le premier, c'est l'enjeu sociologique, c'est-à-dire, et c'est ça toute la complexité, je crois, de travailler sur les femmes et les relations de genre en Guadeloupe, c'est comment désarticuler plusieurs dimensions, et c'est ça la difficulté, la complexité, le patriarcat colonial des institutions françaises, l'évolution féministe de certaines politiques publiques venues de France qui doivent s'appliquer sur place, à partir des années, on va dire, 90, enfin, à partir des années 70, grâce à la contraception, mais ensuite, plus tard, sur la parité, à partir des années 90. Comment désarticuler aussi l'autre élément qui est la matrifocalité de la majorité des femmes, des familles guadeloupéennes, et une autre dimension qui me paraît essentielle, c'est le viriarcat, c'est-à-dire des formes de domination masculine qui n'ont pas besoin de paternité et de filiation patrilinéaire pour s'exercer, mais qui se jouent notamment dans la violence des hommes, dans des formes de domination physique. Et donc, il y a vraiment là cette question qui est posée à la fin du XXe siècle. Enfin, elle n'est pas posée forcément comme ça, je la pose a posteriori, mais je crois que ce que le XXe siècle nous laisse, c'est cette problématique. Et du coup, la question, c'est d'être comment émanciper la femme guadeloupéenne de l'héritage esclavagiste et comment la faire sortir de sa case. Et je voudrais vous dire comment j'ai fait un lapsus auditif au début de mes études et que je reprends toujours. En créole, on dit que quand un homme s'engage avec une femme, enfin s'engage, désigne une femme comme étant la sienne, il la met en case. Il va mettre madame là en case. Et moi, j'ai entendu, il la met en cage. Mais je crois que ce n'est pas faux. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une analogie entre le fait d'être mise en case ou le fait d'être mise en cage. et que parfois, justement, quand un homme met une femme en case, même s'il ne vit pas avec elle, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'en sortir, qu'elle n'a pas le droit de recevoir d'autres hommes, même si lui, il va avec d'autres femmes. Et donc, c'est quand même un confinement, pourrait-on dire, à l'espace domestique. L'autre enjeu qui nous est laissé à la fin du XXe siècle, c'est comment promouvoir la culture et la fierté guadeloupéenne avec des questions qui ont trait à la dimension socio-éducative, favoriser l'éducation, l'accès aux études, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, à la protection sociale, à la santé, à la contraception. Donc vous voyez que les choses étaient en place et se font avec une temporalité peut-être un peu différente de ce qui se fait en France, mais arrive aussi. Alors, pour comme dernière partie, minutes, c'est ça, je vous ramène au 21e siècle et je me pose la question de savoir comment, avec ces travaux, on est arrivé à une société où le féminisme va être complètement masqué, disparaître, voire avoir très mauvaise presse. Alors, je pense que l'une des raisons, mais il y en a d'autres, mais l'une des raisons, c'est qu'en fait, il ne va pas y avoir de relève en termes de production scientifique. Ma thèse arrive en 2000, mais elle est très peu diffusée, je ne l'ai jamais publiée. Et il n'y a pas à l'université de Guadeloupe de politique visant à favoriser d'une part les recherches, les études en sociologie ou anthropologie, puisque ce sont des disciplines qui sont faites en Martinique, et que l'université des Antilles est sur les deux pôles, mais c'est en Martinique qu'on va enseigner la sociologie et l'anthropologie, et que les questions de genre sont extrêmement minoritaires. Il n'y a qu'une collègue, Clara Palmiste, qui, depuis la Guadeloupe, en tant qu'historienne, fait une histoire du genre. Alors sinon, le XXIe siècle commence avec des acquis quand même dans l'évolution des femmes. Une émancipation relative, parce que la misère économique et la précarité, le chômage persistent et précarisent donc un certain nombre de femmes. Une féminisation de la société et du travail, à la fois parce que les femmes deviennent majoritaires démographiquement et ont accès à différents types d'emplois, principalement dans les services publics et la fonction publique. L'accès à la protection sociale par le logement individuel, ce qui va poser des questions en termes de solidarité familiale. Par l'accès à la sécurité sociale et aux minima sociaux, et notamment l'allocation parents isolés, qui va complètement modifier la donne aussi des relations familiales. Et on peut analyser, et c'est d'ailleurs ce que les associations de femmes relèvent et ce dont elles s'inquiètent, c'est la multiplication de stratégies d'accès aux ressources autres que salariales chez les femmes qui sont démunies, soit justement en essayant de trouver des allocations familiales pour subsister, mais on sait bien que ça ne permet pas d'accéder à un énorme confort, ou ce que d'autres appellent des sponsors. Alors les sponsors, c'est d'avoir un homme qui vous permet d'avoir de l'argent et qui va éventuellement vous payer une partie de la voiture, une partie du loyer. Et donc aujourd'hui, on appelle ça des sponsors. Donc c'est des stratégies de valorisation. Et je les souligne parce qu'elles témoignent aussi d'une chose, c'est de la mise en compétition et en concurrence des femmes dans la démonstration ostentatoire de leurs signes extérieurs de richesse et dans les signes extérieurs d'un standing, d'un niveau de vie. Et la respectabilité a peut-être cédé le pas à des formes plus franches et pragmatiques d'adaptation à un système capitaliste et matérialiste. Alors, le début du XXe siècle est aussi celui qui expose les femmes à de nouvelles formes de violence, notamment à cause de la drogue, des problèmes de gang, de pornographie, et l'utilisation extrêmement répandue aujourd'hui des réseaux sociaux, ou de certaines formes de culture populaire dont d'aucuns peuvent s'inquiéter, comme des danses liées au rap, au dancehall, au bouillon ou d'autres, hein, qui mettent en scène un corps de femmes hypersexualisées, marchandisées, et qui peuvent justement inquiéter, qui inquiètent certaines femmes dans des associations parce qu'elles en voient les conséquences sur la violence sexuelle dont les jeunes filles sont victimes. Alors, autre élément important, c'est l'augmentation de la migration et de la part de femmes migrantes originaires de la Caraïbe et du cumul de discriminations qu'elles vivent. Alors, on l'oublie souvent, mais en Guadeloupe, il y a aussi beaucoup de femmes haïtiennes qui sont aussi des femmes noires, qui n'ont pas forcément accès à des mouvements de mobilisation féministe et qui sont en plus racisées et doublement racisées puisqu'elles sont aussi l'objet de discriminations de la part des Guadeloupéens qui sont justement, eux aussi, ou des Guadeloupéennes, qui sont elles aussi des femmes noires, mais qui ne sont quand même pas aussi noires que les Haïtiennes. Il y a quelque chose qui persiste dans cette opposition entre des niveaux de civilisation et des niveaux de couleur. Et puis, pour le saluer aussi, une plus grande implication des hommes dans la conjugalité et la paternité dans certains milieux plutôt favorisés. Alors, le tournant du XXIe siècle, c'est quand même la démission du poteau mitant. C'est-à-dire que les femmes ont compris que la charge mentale totale stop et que certaines, pas toutes, que certaines revendiquent de démissionner de leur fonction de poteau mitant. Et notamment, vous le trouverez en ligne très facilement, Lapitchi sur un blog là, qui s'appelle Lapitchi, qui annonce qu'elle démissionne parce qu'elle n'en peut plus de voir la charge de tout, que c'est une arnaque et que... elle demande à trouver des hommes, un homme qui peuvent avoir les mêmes fonctions. Et donc, on sent derrière une influence sur les questions d'interchangeabilité des rôles. Mais elle revendique son droit à en avoir ras-le-bol, donc son droit à l'horizontalité, à ne plus être dans la verticalité, et tout en restant fière et digne et en disant qu'elle a autre chose à faire que d'assumer toute la charge mentale. Alors... Le contexte sociopolitique du XXIe siècle est sensiblement différent parce que les débats politiques et les débats juridiques concernent la question de l'égalité réelle. Et alors c'est intéressant parce que cette égalité réelle va très peu concerner les femmes. Alors c'est pas banal parce que en fait ce qui se joue c'est la question de savoir comment la Guadeloupe va négocier un statut politique qui va lui permettre de s'émanciper par rapport à la domination française et d'asseoir à la fois une égalité de citoyenneté par rapport à la France hexagonale, et donc la revendication d'une égalité de moyens dans les politiques publiques, dans les financements, pour que la Guadeloupe puisse se développer autant que la France, tout en respectant et faisant valoir des particularités culturelles. Et ça va être la question de la différenciation culturelle au XXIe siècle. Je vois Gaetano Church... Gaetano, ah, je ne vais pas y arriver, excuse-moi. Bon, qui travaille aussi sur la question, je le connais par cœur ton nom, mais excuse-moi, Tcharcha, et qui travaille aussi sur ces questions de mémoire notamment et sur les questions des régimes mémoriels qui Non, ce n'est pas toi. Bref, de la mémoire et du rapport à l'histoire. Et donc, ce qui se joue là, c'est la question de la différenciation politique et culturelle. À travers différents moments, le référendum de 2003, le LKP en 2009, les débats pour la loi égalité réelle de 2017. Et on peut noter, par exemple, fait notoire, que le LKP en 2009, dans ses 120 recommandations, je crois qu'il y avait 120 recommandations, il n'y en a pas une, ni pour les femmes, ni pour la famille. Il n'y en a pas une. Alors, je vous ai mis la photo d'une des tables de négociation qui nous présente quand même un parterre d'hommes. Je ne sais pas si vous avez souvenir des images d'une négociation au World Trade Center en Guadeloupe. Il n'y avait quasiment que des hommes. Je crois qu'il devait y avoir une femme ou deux. Peut-être Lucette Michaud-Chevry a dû être invitée une fois ou deux à la table des négociations. Et Lucette Michaud-Chevry, pour celles qui la connaissent, c'est quand même... la poteau mitant par excellence, la femme à graines et la femme ou mal femme, c'est-à-dire la femme homme. Et il devait y avoir une ou deux représentantes des services déconcentrés de l'État. Mais c'était vraiment une table où le viriarcat, avec d'un côté de la salle les noirs et de l'autre les blancs et les mulâtres. Cette division à la fois sexuelle, sociale et raciale à la table des négociations du LKP. Donc aucune mesure, alors que ce qui est en jeu, c'est justement comment négocier les relations entre le centre parisien, vu comme étant un centre colonial, et la périphérie guadeloupéenne perçue comme subalterne. Mais à aucun moment dans ce débat n'est posée la question des rapports centre et subalterne, 3 minutes, ok, entre les hommes et les femmes. Et c'est intéressant parce qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que ça veut dire qu'on va invisibiliser la place des femmes et du féminisme et donc les écarter, ou est-ce que c'est que, au contraire, elles sont en train d'arriver autrement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point d'orgue de ces 20 dernières années, c'est de promouvoir des particularités culturelles, et c'est à ce moment-là qu'on va demander justement aux femmes d'être les protectrices, les médiatrices et les actrices de cette production culturelle. Alors, je me suis posé la question de savoir si la société était féministe ou pas, mais il y a des formes d'antiféminisme, mais elle peut être aussi aféministe. Le féminisme est devenu impopulaire. Des blogueuses ont fait un petit sondage à partir de leur blog et il en est ressorti que 70% des femmes qui ont répondu ne se sentaient pas concernées par le féminisme. Bon, je ne sais pas si c'est des données fiables, mais c'est pour vous dire. On a un antiféminisme qui s'exprime à partir du religieux, des confessions religieuses et notamment de toutes les confessions sectaires ou d'obédience protestante qui remettent les femmes au foyer. C'est-à-dire qu'il y a une réaction, une contre-réaction à l'émancipation qui a pu se faire et qui vise à remettre les femmes au foyer et dans la soumission au mari. Et surtout, on rejette finalement le projet de dénaturalisation du genre que porte le féminisme pour au contraire culturaliser les problèmes sociaux et les problèmes des rapports hommes-femmes, et notamment donner un alibi culturel aux hommes qui serait, oui mais c'est l'héritage de l'esclavage, c'est dans la culture, c'est des difficultés, voire qui vise à les excuser ou éventuellement même accuser les femmes d'être responsables de l'éducation des garçons, et donc une posture qui consiste à victimiser les hommes, non seulement par rapport à leur histoire, par rapport à la société néocoloniale et par rapport aux femmes qui sont quand même de grandes castratrices. Et puis la dernière donnée en date, c'est quand même la génétisation des problèmes sociaux, c'est-à-dire que, alors ça... il faut y réfléchir à deux fois et avec prudence. C'est-à-dire l'idée que l'esclavage étant perçu comme un trauma aurait modifié le fonctionnement de nos gènes et que, du coup, même s'il y a des capacités de résilience, chacun porterait dans ses gènes des comportements issus de l'esclavage. Et donc, il y a un déterminisme scientifique biologisant qui vient redonner aux difficultés des relations hommes-femmes une validation, pourrait-on dire, et qui annule en quelque sorte le combat féministe qui, lui, se fait sur une sphère sociale. Alors, 3 minutes pour vous dire quelles sont aujourd'hui les associations, comment se battent aujourd'hui les associations militantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne se disent pas féministes, mais justement, ce sont des femmes militantes, pas forcément féministes, qui sont majoritairement des associations d'insertion, et non pas de combat sur le féminisme simplement, c'est de l'insertion de l'action sociale, plus souvent pour des femmes victimes de violences. On peut distinguer des associations locales faites de femmes guadeloupéennes, quelle que soit leur couleur, qui ont tenté de se fédérer avec force, des associations qui ont une affiliation à des fédérations françaises, et là on va retrouver des femmes métropolitaines, guadeloupéennes métropolitaines, qui ont eu une formation aux questions du genre, notamment Solidarité Femmes Guadeloupe ou Guada France Victime. Ce qui est notable, c'est que ce sont des associations pour des femmes victimes de violences, mais pas forcément de femmes victimes de violences. Et je vous renvoie à ces différences quand même importantes dans la construction des identités et des mobilisations, et où se rejouent en leur sein des inégalités, des hiérarchies socio-raciales, notamment avec les femmes pauvres, migrantes, caribéennes, haïtiennes ou dominicaines, alors que les encadrantes sont des femmes guadeloupéennes de milieu moyen, de classe moyenne. Peu de féministes déclarées, sauf chez celles qui ont été formées en France. Et on est dans un modèle caritatif plus qu'activiste, où il y a peu d'empowerment, mais encore une influence religieuse grande, et où des responsables, y compris de la préfecture, n'hésitent pas à dire que s'il y a tant de violence en Guadeloupe, souvent c'est quand même parce que les femmes n'ont pas la tenue vestimentaire qu'il faut. Alors, on peut noter l'influence du Grenelle des violences l'année dernière, mais je n'ai pas assez de recul sur ça. Bon, je passe sur les caractéristiques d'une nouvelle forme, un nouvel stéréotype. C'est plus le potomitan, c'est la femme rose cayenne, mais je passe un peu pour me poser la question avec vous de savoir pourquoi en Guadeloupe on ne se dit pas féministe. Et je crois qu'en fait, c'est parce qu'il y a toute une série de valeurs, de types d'actions, de formes de mobilisation, de principes ou de rapports hommes-femmes ou de rapports entre femmes qui diffèrent et qui, justement, reflètent des différences d'organisation sociale, d'organisation culturelle, à la fois parce que dans les représentations, l'image de la femme féministe, d'un côté, c'est une femme qui a été soumise et qui veut se battre, alors que la femme guadeloupéenne serait une femme d'Ubout. Dans les valeurs, le féminisme promeut l'égalité et les associations locales, plutôt la complémentarité. Dans le rapport aux hommes, et ça me paraît important, on a l'impression, sur place, on a l'impression que le féminisme vise à les exclure et à construire l'indépendance des femmes, alors que là, en Guadeloupe, on veut au contraire les garder et construire de nouvelles formes de relations et de réparer les blessures faites aux hommes par l'histoire, voire de les excuser, mais non pas de s'opposer à eux ou de les exclure. On peut interroger aussi la question du rapport aux femmes. Le féminisme, et notamment le féminisme noir, implique une sororité. Et comme je vous le disais, on est plutôt dans un contexte de grande rivalité entre femmes, de mise en compétition et en concurrence des femmes qui ne permet pas toujours la solidarité, mais au contraire, moi, ce que j'entends quand même de la part des femmes, c'est que le problème qu'elles ont, ce n'est pas avec les hommes, c'est avec les femmes. Et d'ailleurs, l'enquête Virage, dont les résultats viennent d'être publiés, montre que dans l'espace professionnel, les femmes sont beaucoup plus qu'en France victimes de violences, mais elles sont à près de 50% victimes de violences de la part d'autres femmes. Donc il y a une vraie interrogation à avoir aussi sur la difficulté de construire des solidarités féminines. Et puis une autre raison de pourquoi on n'est pas féministe, c'est qu'on ne veut pas s'exposer dans l'espace public. Je résume un peu la fin. On ne veut pas s'exposer dans l'espace public. On a peur justement d'être identifié à des femmes qui seraient des femmes faibles, des femmes soumises. Et donc au contraire, on n'arrive pas à se définir en tant que victime. Et puis on a peur de s'exposer dans l'espace public parce qu'il faut sauver la famille, il faut sauver le rang, il faut sauver le nom. Et que aller dans l'espace public, dénoncer, crier comme le font les féministes, c'est pas possible pour des femmes qui sont sous l'emprise d'un contrôle social, du candidaton, du macrélage, et qui doivent faire très attention à leur respectabilité et à leur dignité. Alors bon, je passe sur le reste, mais quand même, je voudrais dire que moi je crois que contrairement à ce que dit Françoise Vergès, actuellement en Guadeloupe, les femmes ne veulent pas renoncer au capitalisme. Au contraire, elles y tiennent beaucoup. Elles tiennent beaucoup à pouvoir justement accéder à un confort matériel, financier, et à faire valoir justement des différences dans ces signes extérieurs. Et elles tiennent beaucoup, par exemple, à pouvoir elles-mêmes avoir des domestiques, éventuellement des domestiques haïtiennes, pour celles qui en ont les moyens, évidemment. Et je ne suis pas sûre que la situation actuelle soit une situation de dénonciation du capitalisme et de l'exploitation des femmes dans le capitalisme. Pour conclure, on arrive à une situation où les femmes sont divisées. On n'a pas forcément d'unité, d'homogénéité dans les mouvements de femmes. On a plutôt des conflits, des oppositions entre les associations. Mais je conclue de façon positive. Il me semble qu'il y a de nouveaux engagements de femmes, comme un engagement en archipel, un pulse en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas un mouvement qui traduirait le féminisme, mais on a plusieurs associations qui ont émergé ces dernières années et qui montrent que, comme en archipel, se crée une nouvelle mobilisation de femmes. Alors, le manifeste des 308, après une vague de féminicides en 2013, demande des changements structurels pour protéger les femmes et promouvoir les femmes en Guadeloupe. L'association Héritage, menée par Laurence Makiaba, ou le CIPN, le Comité international des peuples noirs, valorise la conscience noire et valorise l'héritage des afro-descendants, notamment avec des voyages, l'accès à la connaissance de la culture africaine et caribéenne. Des formes de sororité sont valorisées via la logique afro-féministe ou carib-féministe ou dans du black stream, par notamment quelqu'un que vous connaissez peut-être, Stéphanie Mélion-Reynette, qui a vécu en France et qui a été imprégnée par les mouvements afro-féministes, notamment Moissy, et qui, en tant qu'artiviste, alias Nefta Poetry, organise chaque année le festival Cris de femmes. Et cette année, je ne sais pas si vous voyez, mais justement, la thématique, c'est genre et sororité. L'association Amalgame Humanise, qui va être la première à proposer une écoute pour les lesbiennes, et ça c'est aussi une question, peut-on être lesbienne dans cette société viriarcale et homophobe, portée par Viviane Mélion de France, qui a ouvert l'année dernière. des formes d'écoféminisme, et ça, ça sera probablement mon prochain terrain, donc je n'ai pas énormément de données, mais autour de l'association Vivre et Patricia Châtenay-Rivaudet qui lutte contre, vous savez, sur la question de l'empoisonnement au chlordécone, et donc qui interroge comment les femmes ont pu être elles-mêmes exposées, et peut-être différemment des hommes, à ces pollutions et quelles sont les conséquences spécifiques pour la santé des femmes, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a beaucoup entendu parler que le chlordécone, ça crée des cancers de la prostate, mais est-ce que vous savez ce que le chlordécone fait aux femmes ? Donc, à interroger la réponse dans les questions du débat, si vous le souhaitez. Et puis, alors ça, j'ai découvert ça avant-hier, en préparant ma com, et j'avoue que j'étais étonnée. Deux jeunes femmes guadeloupéennes, Mélissa Marival et Solène Vangou, qui, elles, sont parties faire leurs études au Canada et qui sont revenues en Guadeloupe et qui ont créé un blog de féministes décoloniales. Alors, elles sont très influencées par certaines auteurs comme Françoise Vergès, Stéphanie Mélion-Renette ou Stéphanie Mulot. Elles me citent beaucoup, donc je me dis oui. Oui. Et leur blog s'appelle Femme Kashayeko. Alors, je me suis demandé comment le traduire, donc vous allez m'aider. Et donc, on arrive à la question du féminisme décolonial, qui, là, c'est extrêmement récent, c'est il y a 3 mois, quoi. Alors, pour conclure, peut-être on va trouver de nouvelles impulsions, mais je crois qu'il faut s'inquiéter. Enfin, moi, je m'inquiète, je ne sais pas vous, et chacun a ses inquiétudes là où il veut. Moi, je m'inquiète sur le retour de l'emprise d'un culturalisme qui peut avoir comme effet positif de définir de nouveaux méridiens culturels, c'est-à-dire que les femmes s'ancrent différemment dans leurs origines par rapport à l'Afrique, par rapport à la Caraïbe, et non plus que par rapport à la France. Mais en même temps, je voudrais rappeler que dans le culturalisme, il ne faut pas oublier que la culture, c'est un outil idéologique de domination, et souvent de domination masculine. Et que derrière la culture, il y a vraiment souvent des argumentaires qui donnent des alibis à cette domination. Le côté positif étant que c'est aussi un outil pratique de l'émancipation féminine quand les schèmes culturels sont renversés et utilisés pour faire valoir les femmes. Et conclure donc sur le fait que le corps des femmes a toujours été l'objet principal des biopolitiques un peu partout sur Terre et que les Guadeloupéennes n'y ont pas échappé. Je vous remercie et je vous laisse avec cette image de Léna Blou, chorégraphe guadeloupéenne, qui ne se reconnaît pas féministe, mais qui, je pense, malgré elle, contribue à permettre aux femmes de vivre différemment leur corps, notamment dans cette danse qu'elle appelle le bigidi. Le bigidi étant le fait d'être toujours en déséquilibre et de devoir toujours gérer dans le gros cas le déséquilibre comme forme transitoire vers l'équilibre. Je vous remercie.
Merci Stéphanie. Alors, nous sommes vraiment désolés, mais comme nous avons pris beaucoup de retard, nous sommes obligés de ne pouvoir consacrer qu'un très court temps à la discussion, c'est-à-dire à une seule question. Nous sommes désolés. Les personnes qui voudraient discuter plus longuement avec Stéphanie Mulot pourront le faire lors de la pause qui va suivre.
Moi, je suis désolée parce que je suis très bavarde.
Tu nous avais prévenu, nous avons essayé de
m'arrêter.
Du coup, nous allons prendre une question et les autres, notez vos questions et vous allez les poser après, à la pause. Donc,
alors là, c'est la course à qui
Oui, c'est une question peut-être très, très générale. Merci beaucoup parce que c'était vraiment, vraiment passionnant. C'est une question sur féminisme et maternité, en fait. Tu en as parlé à différentes reprises et je pense que c'est une question partagée. Je me demandais si dans les femmes engagées, les militantes d'aujourd'hui, cette question du refus de la maternité, on en a un peu entendu parler hier avec Tina Arpin, comme assignation, était présente ou pas, ou si voilà, on peut penser à un féminisme qui justement assume le fait de devenir mère avec toutes les contraintes que ça suppose.
Alors, je pense qu'il y a un écart entre ce que les intellectuels proposent et ce que les femmes vivent, les femmes dans la société civile, ou ce que les femmes politiques proposent. Donc c'est compliqué d'homogénéiser ma réponse. Mais je dirais que dans la société civile, moi, je n'ai pas entendu le fait qu'on pouvait s'abstenir d'être mère pour être une femme, déjà. C'est-à-dire que la maternité continue d'être le passage obligé pour affirmer la féminité et être reconnue comme telle socialement. Et donc, ça fait partie des valorisations sociales et symboliques majeures que les femmes trouvent dans le fait d'être mère, premièrement, éventuellement sans père si c'est compliqué, ou avec plusieurs pères si on n'a pas le choix. Et dans les autres formes de valorisation, c'est quand même d'avoir un homme, parce qu'on a beau être dans un modèle de monoparentalité, de potomitant, les femmes sont quand même toujours en train de constater qu'avoir un homme avec soi, ça apporte quand même un peu plus de statut social, une valeur symbolique un peu plus forte. Donc, y a par contre une chose autre, c'est que le nombre d'enfants par femme a extrêmement diminué. On est à moins de 2, c'est-à-dire que l'arrivée de l'enfant est peut-être beaucoup plus négociée avec le partenaire, et ça s'inscrit dans un contrôle des naissances qui correspond aussi à des aspirations de femmes de pouvoir faire autre chose et concilier la vie maternelle avec d'autres dimensions de leur existence. Ça, c'est quelque chose qui est en place là en 2020, je pense que c'est en place. Hein. Mais ce n'est pas non plus renoncer complètement à la maternité. Même si on n'est plus potomitant, on est quand même maman, doudou, chérie en moins.